Bienvenue sur notre podcast Match après match.
C'est parti pour une heure d'émission. On est ensemble jusqu'à 20h30. Vous l'aurez vu vous-même, on n'est pas dans le décor habituel de Match après match. Et non, parce que Match après match s'est délocalisé chez Dan Endoy à Bologne. Bonsoir Dan, merci beaucoup de nous accorder cette interview exclusive. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre environnement. Première question, tout simplement, comment allez-vous ?
Bah, très bien. En ce moment, bah, on a beaucoup de matchs, donc c'est un peu la course pour nous, mais... Franchement, je vais très bien et content d'être avec vous.
Intéresse, c'est déjà de savoir comment vous vous êtes retrouvé ici. Vous avez commencé votre deuxième saison à Bologne, une très belle saison d'ailleurs. Comment vous êtes-vous retrouvé ici ?
Bah, j'étais à Bâle. Je venais de finir une saison vraiment longue avec Bâle, avec un bon run en Conference League, pardon. Et ensuite, j'ai fait l'Euro moins de 21 avec la Suisse. Et juste après ça, tout naturellement, j'ai reçu une proposition, enfin un intérêt déjà de Bologne. Et après, au fur et à mesure des semaines, j'ai comme eu un bon feeling en me disant que ils me voulaient vraiment. Et j'ai senti vraiment l'intérêt qu'ils me portaient. Et avec après plusieurs fast-time et discussions que j'ai eues avec les dirigeants, et avec ma famille aussi, je me suis rendu compte que c'était peut-être le bon projet pour moi et le bon prochain step à faire. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici.
Et vous vous retrouvez avec deux autres internationaux suisses, Michel Ebischer, Raymond Freuler, la Swiss Connection ici à Bologne. Vous vous rendez peut-être pas compte de ça parce que vous êtes ici, mais vous nous rendez extrêmement fiers de savoir ces trois Suisses à Bologne qui fonctionnent et qui jouent régulièrement.
Non, c'est clair. On s'est retrouvé un petit peu naturellement. Bon, Michel était déjà là, mais avec Raymond, on est arrivé ensuite. Et je pense, ouais, on s'est vraiment... trouver un bon endroit pour s'exprimer notre football ensemble. Et en tout cas, on a une très bonne relation tous les trois et j'espère qu'on va continuer à rendre les Suisses fiers de nous ici.
Ah, vous avez intérêt. Hein. Bon, cette intégration, peut-être, elle a été facilitée un peu par le fait qu'il y avait d'autres Suisses. Ça vous a permis peut-être de gagner un peu de temps dans l'intégration parce que vous êtes très bien intégré, très vite intégré.
Non, c'est clair que je pense que ça a aidé d'avoir Michel ici dès le départ. Ensuite, rejoint par Raymond quelques semaines après. Et ouais, je pense que tous les gens ici m'ont rapidement mis à l'aise et c'est pour ça que j'ai pu m'intégrer très rapidement. Franchement, Bologne, c'est une ville avec des gens superbes pour vivre et même les gens, les supporters et les gens dans l'équipe. Franchement, on a une équipe assez spéciale avec vraiment beaucoup de joueurs qui ont une alchimie entre eux et comme un petit peu une famille. Et c'est vraiment pour ça que je pense que je me suis rapidement intégré.
Ça me fait penser à deux choses que ce que vous dites. On est passé au stade juste avant de venir vous voir et on a ressenti vraiment, alors que le stade est vide, ce sentiment d'appartenance et de famille. Ce côté familial, on le sent, il est dans l'air un peu partout. Rien que dans la petite boutique, rien que dans les gens qui passent, qui disent bonjour, etc. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez.
Ouais, non, c'est très clairement ça. Franchement, je ne connaissais pas Bologne du tout avant de venir ici. Et vraiment, la région est vraiment très chaleureuse. Les gens sont très, très gentils, très respectueux. Et je pense, ouais, c'est ça qu'on arrive à démontrer en tant que club, mais aussi avec nos fans. On est un club très, très proche de nos fans et eux sont très proches de nous. Donc c'est ça qu'on le montre et je pense que c'est assez naturellement qu'on est comme ça.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez changé de statut ici à Bologne entre votre première et votre deuxième saison ?
Moi, on pourrait dire ça. J'essaie de toujours donner le maximum sur le terrain. Après, les choses se font naturellement. Mon statut a peut-être évolué cette saison en ayant plus de responsabilités. Et voilà, c'est ça que j'aime. J'aime les responsabilités, j'aime pouvoir faire la différence. Donc je suis très content de mon statut aujourd'hui. Et je sais que j'ai des choses à prouver et à constamment être au niveau. Donc c'est ça que j'aime, avoir un peu de pression, c'est aussi pas mal.
Ouais, vous avez marqué un but en Serie A lors de votre première saison. Là, vous êtes déjà à 5 au moment où on se parle, dont 2 doublés, un but contre la Juventus. Ces responsabilités que vous avez vous ont rendu indispensable, en fait, dans cette équipe.
C'est ce que j'essaye. En dehors des buts, j'ai toujours essayé d'être indispensable avec mon jeu, parce que pour moi, c'est le plus important, être bon en dehors des buts. Et voilà, c'est ce qu'on me reprochait souvent, être un manque d'efficacité. Donc voilà, j'ai aussi travaillé énormément sur ça. Pas seulement sur les buts, mais sur les assists aussi, j'essaye d'être décisif aussi sur ça. Et voilà, avec aussi le coach qu'on a cette année, j'ai pu aussi travailler un peu plus devant le but. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à être un peu plus décisif et à avoir plus de statistiques.
Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de statistiques, mais votre rôle a toujours été important finalement. Quel que soit le maillot que vous ayez porté à Lausanne, à Nice, à Bâle, à Bologne, votre travail, je trouve, sans ballon, a toujours été très important et peut-être un peu trop dévalorisé, en tout cas, à mon avis.
C'est ça en tout cas que je me suis toujours dit. J'ai jamais voulu être un joueur qui marque seulement des buts. Je veux être un joueur qui peut peser dans un match sans forcément pouvoir marquer. Et voilà, c'est toujours ça que je me suis dit, vouloir être un des meilleurs sur le terrain sans parler de but. Et c'est ça que j'essaie de faire à chaque match.
En tout cas, il y a quand même un match, moi, qui m'est resté en tête, un match où vous avez pesé, là, en l'occurrence, par un but. C'est ce match de Coupe d'Italie contre l'Inter à Meazza, où vous allez marquer ce but, vous gagnez votre 1 contre 1, vous faites tout juste, vous partez dans un rush. Ce but, est-ce qu'il a changé quelque chose chez Dan Endoy?
C'était mon premier but en Italie, hein, si je me trompe pas. Oui. Donc c'était je pense que c'est ce but-là qui m'a déjà peut-être fait un peu plus connaître en Italie et qui a peut-être débloqué quelque chose en moi pour pouvoir débloquer un petit compteur but déjà et ensuite me dire que c'est ça que je veux aussi être décisif en marquant des buts parce que c'est ça que j'aime. Ce feeling, ce sentiment d'être buteur, c'est quelque chose qui est indescriptible. Donc, je pense que ça a changé quelque chose pour mon histoire italienne.
Vous parlez de but, c'est une question qui n'était pas prévue, mais le sentiment de marquer un but, vous avez quand même cette célébration assez particulière maintenant, spéciale. Vous pouvez nous expliquer d'où elle vient ?
Elle vient, franchement, je me suis toujours posé la question comment je pouvais faire une célébration qui me représentait. Et comme je suis suisse et sénégalais, avec mes parents qui souvent me comment dire,
vous surnommez...
ouais, me surnommaient Lyon en fait. Et c'est quelque chose qui est très sénégalais. C'est les joueurs de l'équipe nationale sénégalaise, on les appelle les Lions de la Teranga. Et du coup, comme mes parents aussi m'appelaient souvent le Lion, j'ai fait cette référence tout simplement au lion, donc c'est pour ça que ma célébration est comme ça. C'est parce que je représente un lion du côté de ma famille, parce qu'il m'appelait comme ça, et aussi mon côté sénégalais. Donc c'est un peu un clin d'œil au Sénégal.
Ouais, c'est chouette, c'est très beau d'ailleurs, culturellement garder évidemment ses racines. Dès votre première saison, Bologne termine 5e de Serie A, se qualifie pour la Champions League. Un championnat, une saison extraordinaire. On vous a beaucoup suivi, on a vu le début, on se disait est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça peut aller au bout. À Noël c'était toujours bon, au printemps c'était toujours bon, et au final ça passe. Avec le recul, est-ce que vous arrivez à vous rendre compte de ce que vous avez réussi à faire?
Avec le recul, un peu plus, parce que quand t'es sur le moment, c'est plus compliqué de te rendre compte avec les émotions et tout ça. Mais en tout cas, oui, maintenant, le fait qu'on ait fait une saison comme ça, c'est franchement avec les scènes avec les fans à la fin de la saison, tout ce qui s'est passé avec tous les matchs, c'était vraiment une saison exceptionnelle et je pense que je m'en souviendrai encore très très longtemps.
Ma question préférée de toute l'interview, donc j'attends beaucoup de cette réponse. Okay. Franchement, Dan, ça fait quoi d'entendre la musique de la Champions League?
C'est une question que je me suis beaucoup posée depuis que je suis enfant, mais franchement, c'était un rêve de l'écouter pour la première fois. Ma mère, elle a pleuré quand elle l'a entendu la première fois et que j'étais sur le terrain. Donc non, c'était vraiment un moment très spécial pour moi et pour ma famille. Et j'espère la rentendre encore très vite.
C'est ce qu'on vous souhaite, évidemment. Votre maman ou votre famille est déjà venue vous voir, peut-être justement ici, pour un match de Champions League?
Oh, vous étiez là à tous les matchs
de Champions League.
Ouais, ouais.
Bon, quand on a joué la Champions League et puis qu'on a goûté à la plus belle des compétitions européennes, on imagine qu'on voudrait forcément la rejouer à un moment le plus vite possible, c'est juste.
Bah, c'est comme une drogue, hein, quand tu la touches pour une fois, tu veux tout le temps jouer les meilleures compétitions contre les meilleurs joueurs. Donc forcément, c'est un objectif de la rejouer très prochainement. Et j'espère qu'on va y arriver.
Bon, vous avez joué tous les matchs avec Bologne. Vous avez joué à Liverpool, vous avez joué à Lisbonne contre Zeki Hamdouni, vous avez battu Dortmund, finaliste de l'édition précédente. Votre plus beau souvenir, si vous deviez m'en donner un, votre plus beau souvenir de cette campagne de Champions League, ce serait lequel?
Bah, je pense que je dirais quand même la victoire contre Dortmund, parce que c'est quand même la victoire, et ça faisait plus de 60 ans qu'il n'y avait pas de victoire de l'équipe en Europe. Donc je dirais que c'était quand même un moment très spécial, la victoire ici contre Dortmund à la maison.
Ouais, voilà, justement, à la maison, cette victoire. On se souvient de scènes de folie, de liesse, de tant de bonheur que vous avez donné à vos supporters qui étaient déjà ivres de joie à la fin de la saison dernière avec la qualif en Champions League. Mais là, c'était encore au-dessus.
Ah bah là, en fait, en plus, le match qui tourne en quelques minutes, deux minutes. Et les scènes étaient vraiment incroyables. Et avec la musique à la fin du match, franchement, c'était un moment très spécial pour nous comme nos fans, je pense.
Est-ce que vous avez un quelconque regret sur cette campagne? C'était une campagne compliquée, mais évidemment, comme vous l'avez dit, ça fait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu de ce genre de match-là. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, peut-être ici, on aurait pu prendre un point ou trois points?
Bah, je pense qu'avec le changement de coach qu'on a eu au début de saison, on a eu un temps d'adaptation en Serie A comme en Ligue des Champions. Et je pense que si on avait commencé la Ligue des Champions après le match de Benfica ou de Dortmund, je pense que ça aurait été un run différent. Mais bon, après, voilà, c'est le football, c'est comme ça. Mais regret, je dirais pas regret, mais je pense que ça aurait été différent si on le prendrait maintenant, le début de la Ligue des Champions, comme on a commencé.
Ouais, parce que vous avez grandi, hein, tous ensemble. On sent que le groupe... pas monte en puissance, mais a compris le message du coach, a compris comment le coach veut jouer. Et on sent qu'on ne parle pas de la même équipe que celle du mois de juillet ou de septembre.
Ah, c'est clair, ça, on a toujours besoin d'un petit temps d'adaptation pour comprendre vraiment les idées du coach. Et on a eu un temps d'adaptation de quelques mois qui a fait que, au début, on gagnait pas forcément les matchs en Serie A ou même en Ligue des Champions. Et voilà, mais maintenant, je pense qu'on est vraiment un groupe solide avec les idées du coach qu'on a tous compris derrière. Et je pense que ça serait différent maintenant.
Qu'est-ce qui change quand on joue un match de Champions League? On parle toujours du niveau. On le voit nous-mêmes en tant que journalistes, on le voit. Mais vous, sur le terrain, qu'est-ce qui change quand vous jouez un match de Champions League?
Je pense qu'à chaque fois, on a tous rêvé de jouer la Ligue des Champions et jouer contre les meilleures compétitions. Donc là, quand tu joues contre les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, Et tu sais que c'est la compétition s'appelle la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a toujours un supplément de motivation, d'adrénaline, et c'est ça qui fait que dans certains matchs, il y a un moment qui fait que le match bascule où les fans avec la force de leur voix donnent plus de force aux joueurs. Je pense que c'est les plus grandes compétitions donnent les meilleurs moments. Donc je pense que c'est juste inexplicable, c'est ce genre de compétition qu'on veut tous jouer depuis qu'on est enfant, et c'est pour des moments comme ça qu'on travaille tous les jours.
Sur le plan émotif, il y a une différence entre un match de Serie A et un match de Champions League?
C'est compliqué à dire, parce que la Serie A, c'est quand même un des meilleurs championnats aussi, mais je sais pas, c'est... Pour moi, je prends en tout cas les deux matchs de la même manière, mais peut-être sur certains moments, sur certaines phases de jeu, un match peut basculer d'une manière ou d'une autre avec quelques moments comme ça. Et peut-être la Serie A, c'est peut-être des adversaires qu'on connaît plus, on a plus l'habitude de jouer, alors que la Ligue des Champions, c'est des championnats différents, des équipes différentes, des pays différents. Donc peut-être c'est ça qui change entre les deux.
Vous avez notamment joué à Anfield. Moi, je suis déjà allé à Anfield, déjà loin du terrain, j'avais la chair de poule. Vous arrivez à vous rendre compte de ce que vous faites, ou est-ce que vous en rendez compte seulement après parce que vous êtes un compétiteur et qu'il faut gagner un match ou jouer comme il faut?
Quand j'étais plus jeune, les émotions, je les vivais tout de suite. Parce que j'arrivais pas encore à me mettre dans ma bulle ou c'est avec l'expérience que ça vient. Mais au jour d'aujourd'hui, non, j'arrive. C'est très difficile à vivre les émotions, enfin, un peu les laisser transparaître parce que voilà, je me mets tout de suite dans mon match. Et certes, on joue dans des stades incroyables contre des équipes incroyables, mais c'est toujours avec professionnalisme et l'envie de gagner. Donc de le vivre. Je pense que tu le vis plus après que pendant.
Alors, deux questions. Quand tu l'as vécu plus après, est-ce qu'il y a un moment où vous regrettez un peu, vous dites « Waouh, en fait, je n'ai pas vraiment profité de ça parce que j'étais dans cette bulle » ou est-ce que vous le vivez
Non, je regrette, je n'ai jamais de regret. Mais non, tu ne peux pas, en tant que compétiteur et en tant que footballeur professionnel, quand tu veux performer, tu ne peux pas laisser tes émotions prendre le dessus parce que tu ne pourrais pas performer au plus haut niveau. Et donc non, c'est juste le fait de prendre du plaisir à revoir avec un œil un peu extérieur, mais sur le moment tu peux pas laisser tes émotions prendre le dessus.
C'est génial. Cette bulle dont vous parlez, c'est l'un des éléments qui a fait que vous avez aussi réussi à grandir footballistiquement.
Je pense, ouais, ça vient avec l'expérience. Quand tu commences à Lausanne, à la Pontaise, avec 3-4 000 personnes, après tu dois passer à un cap où tu as 30-40 000 personnes, après 60 000, 80 000. Donc je pense que ça vient avec l'expérience, match après match. Et j'ai grandi en tant qu'homme, comme en tant que joueur. Et franchement, je suis fier du parcours que j'ai. J'espère que ça va continuer encore comme ça.
Vous aurez noté que Dan a utilisé le terme de l'émission. C'est très bien. C'est très, très bien, Dan. Vous êtes en contrat. Vous avez un contrat jusqu'en 2027 avec option. Vous avez déjà goûté au championnat d'Italie, goûté au championnat de France. Est-ce qu'il y a un championnat comme ça aujourd'hui? Oui, vous êtes un joueur de Bologne. Mais est-ce qu'il y a un championnat qui vous fait rêver ou bien, je ne sais pas, si quand vous étiez enfant, vous disiez, tiens, ça, c'est le championnat dans lequel j'aimerais jouer. Pas une équipe, mais un championnat.
Non, franchement, je me ferme aucune porte. Je suis ouvert vraiment à tout. Quand j'étais enfant, j'étais très ouvert au championnat de France et vraiment fermé au championnat d'Italie parce que je regardais pas du tout. Et j'avais entendu vraiment beaucoup de choses par rapport au championnat d'Italie qui me faisaient penser que c'était un championnat dans lequel je voulais jamais jouer. Au final, mon expérience en Italie a été beaucoup meilleure qu'en France. Donc non, moi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me ferme vraiment aucune porte et en tout cas, en Italie, ici, aujourd'hui, je suis très content de ce championnat-là et de l'endroit dans lequel je suis.
Les choses qui faisaient que vous n'aviez pas du tout envie d'aller en Italie, c'était quoi, par exemple?
Par rapport au racisme, par exemple, on a beaucoup entendu... Enfin, j'entendais beaucoup, quand j'étais jeune, des histoires par rapport au racisme. Bon, après, le racisme, il y en a encore malheureusement partout, un peu en Europe, mais voilà, on essaie de l'éradiquer le mieux et le plus vite possible. Mais en tout cas, depuis que je suis en Italie, j'ai vraiment pas vraiment eu beaucoup de problèmes par rapport au racisme.
Vous, personnellement, pas, mais c'est quelque chose qui existe ici en Italie. C'est dur pour vous, par exemple, de voir ou de lire des choses qui concernent d'autres joueurs de couleur?
Bien sûr, pour moi, c'est quelque chose qui devrait pas exister. Mais voilà, c'est encore pas des gros cas, mais des cas
isolés,
exactement. Et voilà, c'est juste prendre les bonnes décisions et les bonnes sanctions pour que ça puisse ne plus exister dans le football et partout ailleurs.
Parce qu'on ne peut pas vivre avec ce genre de choses-là. En 2025, ce n'est pas possible de voir certaines scènes qu'on a pu voir, mais pas qu'en Italie, mais vraiment un peu dans le foot parfois en général.
Ouais, c'est ça qu'on n'aime pas voir de ce côté-là du monde. Et voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va se régler le plus rapidement possible parce que ouais, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister.
En tout cas, très heureux de savoir que vous n'avez pas dû vivre ce genre de situation-là. Y a quelque chose qu'on se dit souvent, nous, chez Blue Sport, quand on parle de vous, c'est vos choix de carrière. On a toujours trouvé que vous avez fait de très bons choix de carrière, des choix intelligents. Mmh. Et vous êtes, en fait, un symbole d'un joueur qui a vraiment pris step by step, mmh. qui n'a pas visé trop vite, trop haut. Aux jeunes qui vont écouter cette réponse, qui mmh. vous regardent, qu'est-ce que vous voudriez dire pour qu'ils prennent, pour qu'ils fassent les bons choix de carrière ? Parce qu'un choix de carrière, c'est tellement important.
Mmh. Non, bah, moi, j'ai des objectifs qui sont très, très élevés. Mais par contre, j'ai l'intelligence et le calme pour me dire que voilà, tu ne dois pas brûler les étapes.
Ou les dribbler.
Ou les dribbler, ouais, c'est comme tu préfères. Mais en tout cas, ouais, avec ma famille, je me suis toujours posé et on a toujours parlé franc jeu et en se disant qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour moi. Et donc voilà, après Lausanne, on a fait le choix d'aller à Nice, qui au final est un choix qui m'a beaucoup appris, mais sur le plan de jeu, j'ai pas beaucoup eu de temps de jeu. Et au final, après cette expérience-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je joue, parce que la chose la plus importante, c'est toujours de jouer pour un jeune joueur ou pour un joueur en général. Et voilà, donc je suis arrivé à Bâle, dans une équipe qui faisait confiance aux jeunes, et j'ai eu énormément de temps de jeu en 2 ans, où j'ai fait énormément de matchs, où on m'a fait énormément confiance, et où j'ai pu justement de nouveau prendre du plaisir à jouer. Et après, voilà, c'est Bologne qui est venue et où j'ai senti vraiment un intérêt de leur part vraiment insistant. Et au fil des discussions avec ma famille, au fil des discussions avec les dirigeants, je me suis rendu compte, voilà, que c'était le bon choix. Un step qui était dans un top 5 championnat, mais qui n'était pas encore un Real Madrid ou un Barcelone, comme les top clubs du monde. Et après, voilà, après, il faut être aussi bon au bon moment, savoir bien s'exprimer au bon moment pour pouvoir jouer. Et je pense que je l'ai fait, et donc j'espère que ça va continuer comme ça dans ma carrière.
Aujourd'hui, en tout cas, pour moi, mm-hmm. c'est vraiment très personnel, vos performances, évidemment, mais aussi vos choix de carrière intelligents dont on vient de parler font que vous êtes un international suisse important mm-hmm. dans l'effectif. Est-ce que vous partagez cet avis ?
Bon, moi, j'essaie de ne pas trop me poser de questions. J'essaie juste d'être le plus naturel possible, juste jouer mon foot, être heureux quand je suis sur le terrain. Voilà, je n'essaie pas vraiment de me poser des questions par rapport au statut, par rapport à qu'est-ce que je dois faire, me mettre de pression par rapport à mes performances, parce que voilà, je pense que juste en étant moi-même, en étant Dan Doy, prenant du plaisir sur le terrain, c'est là où je vais être le meilleur. Ouais, c'est ça ma philosophie, être prendre toujours du plaisir et continuer sur cette philosophie-là.
Bien. C'est pas que je vous écoute pas, mais j'aimerais quand même parler de ce changement de statut, moi.
Sûr.
Parce que, voilà, vous changez de statut à Bologne, mm-hmm. quand même, pour moi. Vous faites un euro extraordinaire. Vous êtes pas seulement la révélation de l'équipe de Suisse, mais vous êtes l'une des révélations de l'euro. Mm-hmm. Ça fait quand même une sorte de changement de statut, ou un changement de statut tout court. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a changé pour en arriver à ce constat-là ? Qu'est-ce qui a changé entre votre première et votre deuxième année ici, à part l'expérience, les minutes de jeu mm-hmm. et ce que vous disiez aussi, la maîtrise des émotions ? Comment vous êtes devenu ce Dan Endoy-là, pour moi indispensable à l'équipe de Suisse ?
Je pense que c'est une bonne question.
Ouais. Ah, je vous avais pas dit que je venais avec que des questions faciles.
Non, mais je pense c'est juste. Moi, quand je suis sur le terrain, j'ai envie d'être le meilleur. Donc, à chaque fois, je travaille pour être un des meilleurs. Et c'est juste mon envie de gagner, je pense, qui fait qu'à chaque fois, j'essaie de donner le maximum pour que mon équipe gagne, que je puisse faire la différence, que ce soit en club ou en équipe nationale. Et c'est ça qui fait, je pense, qui m'a fait peut-être changer de statut à un moment donné, parce que je veux toujours être le meilleur, un des meilleurs. Donc, en travaillant pour être un des meilleurs, tu à chaque fois augmentes ton niveau, tu progresses et t'arrives à un changement de statut, je pense.
Voilà, donc j'ai bien raison au final.
Peut-être.
Non, mais finalement, moi, en tout cas, ce qui me plaît chez vous, est-ce que je vois de différent mm-hmm. Alors, je vois la rage de vouloir s'arracher pour chaque ballon, mais je vois aussi vous jouez tout le temps avec le sourire pratiquement. Mm-hmm. Et on ne voit pas ça chez beaucoup de joueurs. On voit mm-hmm. ça de temps en temps chez Leao en Italie. Mm-hmm. Mais je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous avez souvent le sourire. On sent que vous prenez du plaisir. Mm-hmm. Alors, est-ce que justement, toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, plus le plaisir, font que finalement, c'est là que quelque chose a changé ?
Pour moi, la base du football, c'est prendre du plaisir. Parce que de base, c'est un jeu qui est devenu notre métier.
Le bol.
Et ouais. Et depuis, depuis que j'ai 4 ans, moi, je prends du plaisir à jouer au football. Et depuis que j'ai 4 ans, je sais ce que je veux faire de ma vie. Et donc, aujourd'hui, vivre ce que j'ai toujours voulu vivre sans prendre de plaisir, ça serait quand même un petit peu bête. Donc moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Même dans les moments plus compliqués, c'est tu fais ce que tu as toujours rêvé de faire et ce que tu as toujours travaillé pour vivre. À chaque fois que je rentre sur un terrain de foot, c'est avec le sourire. Et c'est pour ça que je m'épanouis et que je progresse de jour en jour parce que je prends du plaisir.
Et le petit garçon de 4 ans dont vous parlez, à Nyon, à cet âge-là, il s'imaginait un jour porter le maillot de l'équipe de Suisse, jouer un euro avec l'équipe de Suisse, marquer un euro avec l'équipe de Suisse?
Depuis que je suis petit, je rêve de ça. Et en fait, je crois que je suis arrivé aujourd'hui parce que j'y ai toujours cru. Et je pense, oui, que j'y croyais déjà quand j'avais 4 ans, je crois.
Mais ça, oui, parce qu'on peut pas savoir, effectivement. C'est la tournure de la question qui est un petit peu bizarre, je vous l'accorde. Mais au final, il faut croire. Je crois que le message, c'est que dès tout petit, il faut croire en quelque chose pour vraiment pouvoir aller au bout. Si on y croit qu'à moitié, ça va pas être la même chose. Je pense que la croyance, puis l'objectif final, va être important. Après, le reste, c'est le talent, le travail. Mais c'est important quand même d'y croire pour de
Je
vrai.
pense vraiment que le talent, c'est 10% d'un joueur. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. À un moment donné, il y a tellement de gens qui veulent faire ce qu'on fait que ça peut pas être seulement le talent. Et je pense que oui, on doit toujours croire en soi-même parce qu'à un moment donné, quand t'es contre tous les meilleurs joueurs de ta région ou de tous les meilleurs joueurs de ton pays, à un moment, ce qui fait la différence, c'est qui veut plus que les autres. Et je pense que c'est ça qui m'a réussi parce que je pense que j'étais un de ceux qui voulaient le plus. Et c'est ça que je dirais à la jeunesse, c'est de toujours croire en ses rêves, en croire en ses qualités et travailler dur pour que ses rêves se réalisent.
Ce mois de mars, c'est le premier rassemblement de l'équipe de Suisse en 2025, avec des matchs amicaux contre l'Irlande du Nord et contre le Luxembourg. C'est quoi les objectifs de ces deux matchs amicaux?
C'est des matchs amicaux, donc je pense que c'est bien se préparer pour septembre parce que voilà, il y a des échéances très grandes qui arrivent et ça va être un enchaînement de matchs en très peu de temps, très très important. Donc je pense qu'on a deux matchs à prendre pour faire tous les tests qu'on a besoin de faire, bien se préparer pour ces séances en septembre qui sont capitales pour nous.
Vous comprenez les Suisses qui disent qu'actuellement la natie n'est convaincante que quand elle joue des matchs justement importants, les matchs, soit des matchs de qualif, soit des matchs dans des grandes compétitions?
Je sais pas vraiment si on est convaincant que à ce moment-là, mais en tout cas, le plus important, c'est d'être convaincant dans ces moments-là. C'est pas d'être convaincant en match de préparation. Pour moi, du moment que la Suisse sera prête pour les qualifications et pour les grandes compétitions, c'est bon pour moi.
Qu'auriez-vous envie de dire aux fans de l'équipe de Suisse, aux fans de la Nati qui vous écoutent?
De continuer à nous supporter comme vous le faites, parce que c'était en tout cas déjà à l'Euro un soutien inconditionnel et incroyable à vivre pour nous. Et voilà, j'espère qu'avec vous derrière nous, toutes les échéances qu'on a très prochainement, on va les passer et qu'on va aller quelque part en 2026 tous ensemble en avion.
Voilà, on ne dit pas parce que ça porte malheur. Je crois que ça, vous êtes superstitieux.
Ouais, un
Parce que moi, je suis. Ok,
petit
alors on ne dit pas, on ne dit pas. Le Kosovo, la Suède, la Slovénie, ça c'est pour le mois de septembre.
peu.
C'est un groupe qui est quand même costaud. Personnellement, j'estime que autant eux doivent nous craindre que vous pouvez avoir du respect pour eux. Est-ce que c'est un avantage ou c'est un inconvénient de devoir attendre le mois de septembre et puis de jouer tous ces matchs si rapprochés?
Franchement, dans les calendriers, moi, j'essaie de prendre les matchs quand ils viennent. Je sais pas trop de me poser de questions, donc je sais pas pour nous si ça sera plus simple ou plus compliqué, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faudra qu'on soit bon
Et prêt.
et prêt. Voilà, donc c'est ça qu'il faudra qu'on se dise, être prêt et prendre les points qu'il faudra prendre parce que faudra rien laisser échapper.
Peut-être un mot sur les adversaires de ce groupe. C'est des adversaires costauds, mais aussi voilà. Enfin, le Kosovo, on sait, c'est une équipe voilà qui aime toujours sortir des gros matchs contre l'équipe de Suisse. La Suède actuellement, il y a des joueurs qui sont en feu, notamment Isaac par exemple. Ouais, c'est quand même des gros morceaux.
En même temps, pour aller en Coupe du Monde, il faut passer par les gros morceaux. Donc il faut qu'on soit nous-mêmes, parce que je pense que si on a notre niveau qu'on a présenté par exemple à l'Euro, ou juste qu'on joue avec les qualités qu'on a dans notre équipe, on a sans aucun doute les qualités pour passer. Donc c'est ça aussi, les grandes compétitions, c'est dans les grands matchs à pression qu'il faudra être bon. Donc je pense que j'ai pas de soucis à me faire, parce que je sais qu'on a les qualités, on a la mentalité pour passer, et voilà, il faudra juste être bon au bon moment.
Ouais, mais finalement, c'est pour ce genre de match-là que vous jouez au foot, que vous avez envie de jouer au foot, j'imagine.
Bah, c'est clair que je pense jouer des matchs pour se qualifier en Coupe du Monde, c'est un rêve de gosse. Et je pense que ouais, on va prendre du plaisir, comme toujours. Même dans des matchs à pression, et donner le maximum comme on l'a toujours fait.
Est-ce que vous avez des regrets? Je sais que vous avez une philosophie, j'ai bien compris ça, mais est-ce que vous ne pensiez pas qu'il y avait de quoi passer ce quart de finale contre l'Angleterre? Quand on revoit le match, je me
Oui,
suis
non,
refait le
je
match
sais, je
exprès,
sais.
je me suis refait le match avant de venir. Et j'avais les images en tête, mais il y en a un qui manquait encore que j'ai revu et je me disais, mais c'est incroyable, il y avait tellement la place pour passer.
Je pense qu'il y avait la place, mais comme je l'ai dit, je pense que voilà, tout doit arriver pour une certaine raison, et peut-être que voilà, c'était ce match-là qu'on devait pas passer. Peut-être ça sera dans le futur qui tournera en notre faveur à nous, mais voilà, c'est on peut pas changer le passé, donc je pense que c'était une très bonne expérience pour notre équipe, pour notre futur, et j'espère que dans le futur on aura du succès avec cette équipe.
Des belles satisfactions. On ne peut pas changer la banane de Shaqiri en fin de prolongation,
Non, malheureusement
malheureusement.
pas.
Que peut-on vous souhaiter pour la fin de cette saison?
Continuer à prendre du plaisir sur le terrain, marquer beaucoup de buts, faire beaucoup d'assists, et finir en place européenne, j'espère, avec Bologne.
Bon, madame, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci infiniment au nom de toute l'équipe de Blue Sport de nous avoir accueillis ici. C'était un plaisir. C'est l'heure maintenant de retourner au studio.
Blue Sport, alors, c'était Dan Doy, et c'est l'heure maintenant.
Et on n'est pas revenu de Bologne les mains vides, puisque Dan Ndoye a signé ce maillot du Bologne. Vous pouvez le gagner à partir de maintenant sur notre page Instagram. Et oui, on sait gâter nos followers. Foncez sur notre page Instagram. Tout le monde peut jouer, à part eux. Michael Bugnon, évidemment. Oh, Carlos Varela non plus. Mais c'est chouette de vous avoir à la place du concours. Vous pouvez me donner votre avis sur les choix de carrière et sur l'explosion de Dan Ndoye ces dernières saisons.
Bah, moi, j'ai beaucoup aimé quand tu parlais de choix de carrière avec Dan Ndoye, parce que pour moi, le meilleur choix, c'est de s'être peut-être rendu compte qu'il avait fait une erreur. Dans le sens où il est parti très vite, quand même, finalement, à l'étranger. Je trouve presque trop vite. Dans ce choix-là, peut-être que ce n'était pas le meilleur d'aller à Nice. Et finalement, le fait de revenir à Bâle et de faire, là pour moi, l'éclosion qu'il a faite avec notamment cette saison de malade en Conference League, c'est là le meilleur choix de carrière. Revenir pour mieux repartir. Et là, maintenant, il est au taquet. Il est au top de sa forme quand il est parti de Bâle. Pour moi, là, c'était vraiment le choix numéro un de sa carrière, ouais, pour l'instant.
Je te rejoins tout à fait. Moi, c'est Bologne, le bon choix. Parce que le bon choix, on peut le dire souvent après. Il y en a beaucoup qui disent trop tôt, c'est le bon choix, c'est le mauvais. C'est après une, deux saisons où tu peux dire, bah, finalement, il a fait le bon choix parce qu'il s'est imposé. Ce qu'on lui reprochait, il a réussi à grandir là-dessus, parce qu'au bout d'un moment, ses positions, tu dois avoir des stats, il les a. Donc aujourd'hui, on peut parler d'un bon choix, mais je te rejoins qu'au début, en fait, le choix de Bologne fait tout le reste, embellit tout le reste. Mm-hmm. Et où il est là aujourd'hui, il y a des échecs dans la vie, des choix, mais en tout cas, il a encore une marge pour grandir.
Mmh. Bon, moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup chez lui, bah oui, c'est ses choix de carrière dont on a parlé, mais c'est aussi son intelligence footballistique, son intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qu'on pourrait sortir encore comme autres exemples de choses qu'on pourrait aimer chez lui, surtout pour les jeunes qui doivent faire des choix
humble
de carrière.
Moi, je le connais pas, hein. Mais c'est important, des fois, c'est plus important de ne pas le connaître, puis de voir ce qu'il dégage. Et moi, quand je l'entends parler, même cette interview-là, tu sens qu'il est conscient du métier, qu'il se fait plaisir, et il ne se prend pas au sérieux. Je pense, et tu vas peut-être le confirmer, qu'il y en a beaucoup qui se prennent au sérieux très vite. Il est quand même à Bologne, il fait une carrière que beaucoup n'arriveront pas. Il n'a que 24 ans. Je sens qu'il a les pieds sur terre, qu'il est bien entouré. J'y vais au bluff, hein, parce que je ne connais pas son entourage, mais il donne cette impression.
Bon.
Et au moins, c'est ce que les gens veulent voir, parce que tu t'identifies à ce gars qui est encore jeune, pas un gamin, mais jeune. Et moi, c'est surtout ça que j'aime. Et sur le terrain, je le vois même aussi.
Tu parlais de sourire, et j'aimerais rajouter ça, en fait, pour moi, c'est un bon gars. C'est-à-dire que même moi qui l'ai côtoyé dans un monde professionnel, j'ai un souvenir, par exemple, avec lui, c'est à Bratislava, justement, Conference League, qualification au tir au but. Les gars de Bâle sont en train de faire la fête et tout. Il vient à l'interview, limite, il me prend dans les bras, il me dit « Oh, on l'a fait, c'est trop bien !» Et puis tu vois que c'est un bon type. Ouais. Bon, alors là, c'est clair, c'est dans un moment d'euphorie où il est content et tout, mais même quand il rechignait jamais à venir à l'interview quand il perdait, tu vois que c'est un gars qui, ouais, qui a le sourire, qui est heureux et puis qui fait de sa passion son métier finalement.
Oui, exactement. Et puis il a gardé cette humilité. Tu parlais d'humilité. Moi, je le connais vraiment depuis très longtemps. C'était un pré-ado et il a gardé cette humilité. Il te remercie quand tu vas le voir à Bologne. Il te remercie pour la route que t'as fait. Il te remercie pour
le temps que t'as. Il a même fait une célébration pour Blue
Sport. Ouais, il a fait une célébration pour Blue Sport. Allez la voir, elle est sympa sur nos réseaux d'ailleurs. Ouais, il est vraiment, je pense. Je déconne un peu, mais on aurait pu lui demander de faire à peu près n'importe quoi. Il l'aurait fait tellement il est ouvert, tellement il est humble. Et il y a une autre chose encore qui me plaît beaucoup, Carlos, chez lui, c'est quand il parle dans cette interview-là de devoir rester dans une bulle pour pas être submergé par les émotions. Et ça, en fait, il l'a compris au fil de sa carrière. De Lausanne à Nice, de Nice à Bâle, de Bâle à Bologne. Toi, tu devais faire ça aussi pour justement pas être submergé par ces émotions?
Oui, ce qui est admirable, c'est qu'il a que 24 ans. Il y en a qui le comprennent bien plus tard. Mais je pense qu'il doit être super bien entouré parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Après, les émotions, moi, je les ai eues. C'est des émotions positives. Mais je pense que lui, est-ce qu'il ne se référait pas à justement tout ce qui peut venir mettre du grain de sable dans sa route, tu vois?
Non, c'était plus sur... c'était au moment où on parlait de ces matchs de Champions League, quand t'es à Anfield, par exemple, et puis que t'as... Enfin, je veux dire, nous, on va à Anfield commenter un match, on a la chair de poule en attendant.
Compte, parce qu'il dit qu'il se rendra compte après ou qu'il se rend pas compte encore. Là, je confirme à 100%, j'ai beaucoup plus parlé de ma campagne Champions League 20 ans après. Que sur nous. Aujourd'hui, avec mes filles, c'est elles qui me font comprendre. Mais papa, tu étais... Et quand je rencontre les anciens joueurs, on se dit, mais tu te rends compte, on était à Manchester, on fait 1-1, on était déçus. Mais sur le moment, ouais. Et en fait, là, je le rejoins. Et je pense que c'est ça, c'est pas une bulle que tu dois te faire, je pense que tu ne réalises pas. T'es dans ce truc, puis tu restes.
Aujourd'hui, énorme encore, hein, Dan Endoy, 5-0 pour Bologne contre Lazio. Il est passeur, il est buteur, il est MVP du match. C'est quoi la suite pour vous, les gars?
C'est une très bonne question. Moi, je pense que là où il est maintenant, il ne faudrait peut-être pas partir tout de suite. Parce que il y a deux saisons maintenant, mais je pense que c'est quand même déjà un step assez haut, Bologne. Hein. Faut pas se dire que c'est le bas de Serie A. Faut pas se dire que. Et je pense que oui, l'avenir à moyen terme, ce serait peut-être un top club de Serie A. Parce que c'est peut-être le championnat qui lui convient en ce moment, en tout cas très très bien. Mais moi, j'aimerais bien encore le voir une année, je pense, à Bologne la saison prochaine. Et après, tout d'un coup, je sais pas, un club comme l'Inter ou un autre club du top, même si c'est dur de savoir qui est vraiment dans le top en Italie en ce moment.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, mais je te rejoins assez là-dessus, parce qu'en fait, j'aime pas qu'on dise toujours le prochain step, c'est toujours un transfert. Tu peux devenir culte à Bologne, oui. C'est pas n'importe quoi, ils sont quand même dans le top 4. C'est pas forcément tu vas là puis tu as franchi un palier. Tu peux franchir un palier en restant dans ton club. Et pour dire où, bon, on sait pas, mais par contre, il y a beaucoup d'autres championnats qui peuvent le comprendre parce qu'il est maintenant qu'il est efficace. Mm-hmm. Maintenant, avant non, parce qu'au bout d'un moment, tu dois l'être. Il a toutes les autres qualités également. Combatif, pour l'équipe, coéquipier, etc. Donc, il n'a pas de limite. Mais c'est pas forcément un départ qui lui fera franchir un cap.
Et il a énormément, là on parle beaucoup de l'homme, mais je trouve quand même qu'il a énormément amélioré ses notions tactiques dans le jeu, dans la façon de c'est pas uniquement un ailier. Et d'ailleurs les années, enfin l'année où notamment il fait à Bâle, qui est énorme comme j'ai dit avant, c'est un piston, c'est un gars qui doit défendre. Et à la base, il savait pas trop faire ça. Et ça l'a, je pense énormément, ça lui a énormément apporté pour la suite. Même si maintenant c'est redevenu un ailier, si on veut bien. Ben, il a quand même ses notions de placement, ses notions de tactique. Quand il faut vraiment défendre, ben, il est là pour défendre. Et je pense que ça a beaucoup changé dans sa perception du football aussi. Et il en parlait d'ailleurs de ça dans l'interview.
Absolument, absolument. On écoute, on lit vos commentaires, hein, sur notre page YouTube. Vous voulez beaucoup parler de Servette, vous voulez beaucoup parler d'Yverdon. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'équipe de Suisse également, évidemment, puisqu'elle appose des équipes nationales. On aura Mathieu Vitkeviez qui passera nous voir pour parler du Servette FC avec tous les fans Grenat. Vous retrouvez en attendant l'interview intégrale
avec Dan Endoy. Dan Endoy, pas de regret à partir de ce mardi à 21h sur Bluezoom. On parle de l'équipe de Suisse, si vous le voulez bien, avec cette première question, moi, qui m'intéresse, c'est toi que j'aimerais entendre, Carlos, sur ces matchs, ces deux matchs, Luxembourg, Irlande du Nord, au mois de mars, parce que la campagne de qualif ne commence qu'au mois de septembre pour le prochain mondial. À quoi ils servent ces matchs-là maintenant ?
Alors, plusieurs choses. Mais d'abord, il faut faire il faut tester. Les échéances d'une équipe nationale, c'était jugé sur l'Euro, sur la Coupe du Monde. Ligue des Nations, c'est quand même une compétition qui reste amicale, mais il y a une coupe au bout, tu dois quand même plus ou moins être là. Donc, je le sais, il faut, à long terme, il sait où il veut aller, il sait à quelle compétition il veut arriver, puis tu as un cadre de 30-40. Et puis, peut-être que là, il y a des joueurs qui vont être vexés, c'est un peu difficile, et puis tu regardes un peu où tu es juste dans les positions. Puis tu dis, ah ben là, j'en ai que deux sûrs, j'ai pas de troisième défenseur central, j'ai pas de quatrième. Est-ce que je vais pas tester un autre pour voir aussi qu'est-ce qu'il vaut dans ce que moi je demande ? C'est-à-dire, c'est pas juste, lui il est bon dans son championnat, je vais le prendre. Est-ce qu'il colle avec ce que moi je vais lui demander ? Peut-être pas du tout, mais il n'y a qu'une convocation qui va voir la personne ce que t'es comme homme. Et puis maintenant, dans le match amical, est-ce que t'es conscient de ce que moi je demande à un... Et si c'est faux, c'est pire que c'est un maître, tu dois l'essayer.
Bon, Carlos, il a déjà vachement envie de parler de la liste, mais si t'es d'accord, Michael, on parle encore un petit peu de ces échéances. Donc il y a les deux échéances dont on a parlé. Et puis ensuite, il y aura encore deux matchs contre le Mexique et contre les États-Unis. Ça, c'est pour le mois de juin. Et le groupe, c'est la Slovénie, c'est le Kosovo, c'est la Suède. Tout se joue entre septembre et novembre. Hein. C'est proche et puis c'est loin à la fois, pour moi. Je me posais la question ce matin, je me dis, mais en fait, c'est dans...
Et des fois, ça veut rien dire, exact. C'est ça. Parce qu'en plus, ce serait une nouvelle saison.
Ouais.
Donc, il y a peut-être plein d'internationaux qui vont changer d'adresse, qui vont d'ici là se blesser ou d'ici là devenir vraiment très forts. On n'en a un peu aucune idée. Mais là où je rejoins énormément Carlos, c'est que cette notion de test, il y en a très très peu dans le football, je trouve. Moi, je suis beaucoup le hockey sur glace et il y a des rassemblements en hockey, en tout cas pour la Suisse par exemple, où ils décident de prendre quasiment que des jeunes pour tester les nouveaux gardiens. On laisse tous les habituels à la maison quasiment. Il y en a peut-être 3 ou 4 qui viennent encadrer le groupe, mais sinon, on prend que des jeunes ou des nouveaux joueurs pour les tester. Et je trouve que ça se fait très peu dans le football. Et des fois, honnêtement, là, sur des matchs en plus contre des équipes qui sont censées être plus faibles que nous, je pense que c'est une bonne chose d'avoir ces matchs-là qui... On parle de Ligue des Nations, de matchs amicaux. Pour moi, la Ligue des Nations, on peut pas... Même si certains estiment que c'est des matchs amicaux, ce n'est pas des matchs amicaux. On ne peut pas mettre n'importe quelle équipe qui joue contre l'Espagne en Ligue A de Ligue des Nations. Alors que là, contre l'Irlande du Nord, tu peux te permettre d'avoir une défense complète new look. Tu fais jouer tes deux latéraux, tes deux nouveaux, tes deux centraux, tes deux nouveaux, et puis t'essayes quelque chose.
Et venez nous parler de l'équipe de Suisse, venez nous poser vos questions. Carlos et Michael sont là, on a un peu plus de temps de parole que d'habitude, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. La liste, on y arrive. Lucas Blondel, notamment, argentin d'origine vaudoise, que Yakin est allé visiter en début d'année à Buenos Aires. Premier Suisse à porter le maillot de Boca, il joue devant 50 000 personnes à la Bombonera. Il a grandi entre le canton de Vaud et le pays de sa maman. Alors, c'est justement un de ces joueurs, peut-être comme Gartenmann, qui sont testés précisément là, parce qu'il y a le temps de le faire, il y a la place pour le faire.
Bon, clairement. Puis en plus, c'est des sacrées histoires. Ça veut dire que Mourad Yakin, il les suit quand même depuis un moment, parce que sinon il peut pas aller chercher un gars mardi pour le naturaliser et puis jeudi pour le prendre avec. Donc effectivement, je pense qu'il savait depuis un petit moment que ces joueurs existaient, que ces joueurs avaient du talent certainement dans leur championnat, et qu'il attendait le bon moment pour essayer de les prendre avec. Et là, c'est typiquement le bon moment. Après, là, c'est un peu différent par rapport à ce que je disais avant, c'est que c'est pas forcément des jeunes joueurs. Ça peut être des bons compléments. Je pense pas qu'un Gartenmann, peut-être pas non plus un Blondel que je connais encore moins, parce que Gartenmann, je me suis pas mal renseigné quand j'ai vu l'info, parce qu'on n'en avait aucune idée. Et en l'occurrence, je pense pas que c'est des gars qui vont pouvoir, dans 2-3 ans, être titulaires indiscutables en équipe de Suisse. Alors...
Pas d'accord, Carlos ?
Non, on verra, mais tu as raison. Non, mais je dis, Mourad sait ce qui lui manque dans son équipe, et il veut voir aussi ce qu'ils peuvent apporter dans mon équipe. Et il y a des messages dans les listes.
C'est ça. Alors, ma question, elle est là. On a quand même effectivement des joueurs soit blessés, soit absents, soit au repos, surtout en défense centrale. Là, on a quand même pas mal de mecs qui sont appelés. Et est-ce que le message dont tu parles, c'est celui-là ? Il y a de la place, il y a des places à prendre dans la défense de l'équipe de Suisse.
C'est ça. C'est à défaut peut-être d'en prendre d'autres qui seront peut-être des élites. Il y a peut-être des joueurs qui sont pas dans la liste, mais que Mourad a appelé et qui lui dit tu fais partie de mon groupe. Mais pour ce rassemblement, j'ai priorisé peut-être cette position parce que je veux le voir, mais c'est un message aussi pour les soi-disant titulaires. J'ai l'œil là-dessus. Je suis pas content de là. Il y a des gens qui poussent. Je vais tester. Puis que c'est pas que des gamins de 19 ans où tu sais que ils sont là pour les. Parce qu'il y a aussi ça. Des fois, il y a des convocations pour les concerner. Je concerne tout le monde, mais tu sais que tu seras pas là. Là, en l'occurrence, tu as très bien dit que c'est pas des gamins. Ils viennent pas pour te faire boire. Je te regarde. Ils viennent là pour peut-être être la surprise dans un 11.
Et on a parlé la semaine dernière avec Vincent Rigolet, avec Hugo Himson de Steve Rouillet, qui n'est pas dans cette liste. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas de place pour Steve Rouillet, parce que les jeunes voix demandent, les Servettiens demandent, dans cette liste-là, où il y aurait des places à prendre. Pour vous, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal?
Ça, c'est très dur à dire. Déjà, par rapport à ce Gartenmann qui est au même poste, moi, je dis la vérité, je ne l'ai jamais vu jouer. Je ne suis pas Ferencváros tous les week-ends, je ne suis pas le championnat de Hongrie tous les week-ends. Maintenant, c'est qu'il y a certainement des bonnes raisons aussi. On n'est pas dans la tête de Murat Yakin. Par exemple, en ce moment, il y a un défenseur qui a été pris en équipe de Suisse, c'est Haïdari, qui est vraiment, pour moi, en méforme. D'ailleurs, par rapport à toute son équipe, c'est le cas, hein, Lugano. Ouais. Mais il préfère quand même Haïdari à Rouillet. Alors là, il y a peut-être une question d'âge, parce qu'Haïdari est quand même plus jeune et il pense à l'avenir. Et il se dit qu'un Steve Rouillet, maintenant, en équipe de Suisse, je me mets dans la tête de Mourat, hein. Je ne dis pas ce que je pense vraiment, mais il se dit qu'un Steve Rouillet, maintenant, en équipe de Suisse, ça lui sert peut-être à rien.
Il y a, notre community manager, Marco Loria, qui vous a posé la question après la publication de l'équipe de Suisse. Qu'est-ce que vous pensez de cette liste-là? On vous a sélectionné quelques-unes de vos réactions. Alors, voilà, il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents, comme d'habitude, parce qu'on est tous un petit peu Mourat Yakin. Pas de Rouillet, pas de Koutessa, pas de Vitsik, pas de Cafor, Carlos.
Pour ces matchs-là?
Ouais. Pour ces matchs-là.
Koutessa, il est un peu dans le moins bien, mais je pense que c'est une arme qui ne pourra pas s'en passer ou qui peut servir. Sur le cas Rouillet, aujourd'hui, mais il faut être fou pour dire que Rouillet, ce n'est pas un des meilleurs centrales et qui pourrait être là. Mais ce que les gens, des fois, oublient, c'est que équipe nationale, il y a nationale, mais il y a équipe. Le raccourci est trop court pour dire c'est le meilleur de la Ligue, ce sera le meilleur en équipe nationale. Non, des fois, tu prends un qui est c'est pas du tout le meilleur, qui peut mettre dans le dur dans son club de Lugano, mais qui va avec le leader de chez nous, qui va faire ce que moi je demande, parce que j'ai un jeu qui va me demander ça, et que peut-être, alors là je vais sans argument aucun, mais peut-être que toutes les qualités de Rouillet, peut-être que Mourat considère, c'est pas les qualités que j'aurais besoin par rapport à ce que moi, je vois mon équipe jouer. Ouais. Parce que si on pose la question à Mourat en disant, est-ce que Rouillet c'est un top défenseur central, mais c'est sûr qu'il va dire oui, et peut-être même le meilleur. Ouais. Mais ça veut pas dire... On le voit chaque année, il y a des équipes nationales qui c'est des flops, et ben c'est justement, lui il est cartonne, on le prend, lui il cartonne, on le prend, lui il cartonne, on le prend, ils arrivent, ils font pas trois passes.
C'est très
donc il ne faut pas oublier ça.
Ouais, ça me fait penser en fait un peu au Portugal,
ouais, mais même, alors, oui, et puis à la France,
avec la France.
Il y a toujours eu ces histoires de groupes, on parlait par exemple tout le temps des gardiens, Areola, il est toujours sélectionné, il y en a plein qui poussent derrière, il y avait Lucas Digne, on savait pas trop, il y avait des moments où il faisait c'est plus vrai. Rien dans sa vie quasiment, puis il était sélectionné dans l'équipe de France, non mais c'est vrai, et là on peut se dire, il y a peut-être des gars, moi je pense à un Erai Tchemert.
Adil Rami aussi.
Mais Erai Tchemert, il y a eu des saisons où il était vraiment pas bon, d'autres où il était bon, mais il était quand même quasiment tout le temps appelé. Et ça veut peut-être dire quelque chose, c'est-à-dire que c'est un gars sur qui il compte, il sait que c'est un défenseur qui a des hauts et des bas, mais voilà, il continue à l'appeler. Là, même dans cette liste où il y a des nouveaux, des anciens et tout, il est là, ce Tchemert. Donc, c'est un exemple.
Je te pose une question de Jules. Pensez-vous que cette nouvelle génération, entre guillemets, de l'équipe de Suisse va être florissante ou pas?
Oh là! Bonne question. Florissante. Qu'est-ce qu'il entend par florissante? C'est une très bonne question.
Ouais. J'imagine. Est-ce qu'elle peut grandir? Est-ce qu'elle peut devenir une équipe importante?
Oui, parce qu'il y a plus de choix, dans le sens où, justement, là, on n'a pas Okafor, par exemple. Puis il y a des moments où Okafor, il n'est pas très bon. Mais quand il sera très très bon, on aura tellement de choix de joueurs. Là, maintenant, on parle beaucoup d'Endoy. Peut-être que dans une année, Endoy, il ne sera pas bon. Et je trouve qu'on a beaucoup plus ce choix de joueurs, alors qu'à l'époque, on prenait quasiment tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes devaient être en forme au bon moment pour que la Suisse soit très forte. Et je pense que c'est là la différence. On a maintenant des gamins qui sont en Belgique, qui sont même en Suisse, Alvin Sanchez, par exemple, des gars d'une vingtaine d'années, qui pousse derrière ceux qui ont 23-24 ans. Donc pour moi, quand on parle de génération, là il y a presque une double ou une triple génération même, où on a largement en tout cas la quantité, et la quantité qualitative, mais pas tous au même moment, mais la quantité pour aller loin, ouais, pour faire quelque chose.
Alors, il y a Matt44 qui comprend franchement pas la convocation d'un Haïdari et qu'on laisse Steve Rouillet à la maison. Il y a Carlos Varela qui a déjà répondu à la question, donc
on va pas la reposer. Il y a sûrement des arguments.
Est-ce que la Suisse va faire mieux que la génération précédente, Carlos?
Que la génération, ouais. Alors, bah, c'est un peu la question d'avant où je dis florissant, on peut être optimiste avec la Suisse, mais pas trop. Il faut juste se rendre compte ce qu'a fait la Suisse ces 10, 15 dernières années. La barre est haute. Si on enlève chacun, là on a enlevé Shaqiri, et ça va s'enchaîner encore 2-3. Les autres, ils sont tous bons, des Vargas, il y a peut-être Yachari qui va venir, etc. On peut être optimiste. Mais pas forcément mieux de ce qu'on a vécu. On était vraiment haut quand on tape la France, quand on est... Il y en a qui nous mettaient favoris. La dernière compétition, pour moi, une finale Espagne-Suisse aurait été logique. Donc on est quand même arrivé, dans ce que je voyais, c'est Espagne-Suisse. Il faut juste se rendre compte que la chute va faire mal. La petite chute, parce qu'il faudra reconstruire ça. Mais je pense que ce passage-là, les gens, ils vont peut-être oublier ce qu'a fait la Suisse, puis ils vont... Voilà, ils vont oublier que c'est un petit pays et tout. Mais je trouve que ça travaille super bien parce que il n'y a aucune déception pour l'instant. Des jeunes qui viennent, ils montrent qu'ils ont le niveau. Donc, on peut être optimiste, mais il faut être gentil et pas trop exigeant non plus.
Non, mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a depuis,
depuis
quelques années. C'est clair que cette génération... Alors, il a fallu aussi la faire progresser, parce qu'au tout début, c'était pas non plus... Alors, c'était bien, mais c'est vrai que maintenant qu'on a eu ces quarts de finale et tout, on en demande toujours plus.
Mais ouais, mais moi, je trouve que justement, et c'est un peu tout le temps ce discours, mais on se rend pas compte de la chose qu'on a. Mais en fait, quand l'appétit vient en mangeant, donc en fait, oui, moi, je m'en rends compte, je me dis, oui, on a tapé la France, on a tapé l'Italie, on a failli sortir l'Angleterre, on se fait sortir au pénalty contre l'Espagne en 2021, au pénalty contre l'Angleterre là, donc...
Mais c'est extraordinaire par rapport au pays.
Mais ça ne change rien au fait que t'as envie d'aller au step supérieur.
Mais c'est au niveau des critiques elles sont, je les valide pas.
Ouais, les attentes et les critiques, c'est pas pareil, tout à fait. D'accord avec toi.
Les critiques après, elles sont du niveau d'Espagne. Niveau, c'est pas normal que la Suisse ne finisse pas dans le dernier carré, comme on dit de l'Espagne ou de la France.
Ouais.
Alors, c'est un compliment en même temps. Hein, que les gens soient là, c'est populaire. Moi, je me rappelle la folie contre la France, c'était beau de voir des drapeaux suisses partout. J'oublierai jamais ça. Mais les critiques, après, elles sont trop abusives pour moi. Mmh. Et c'est là où je suis obligé de dire, après, les gens oublient qu'il faut féliciter d'abord ce que fait la Suisse.
Alors, si on perd en 2026 contre l'Argentine en huitième de finale, c'est pas grave, dans le fond.
Ouais, mais quand on a perdu contre l'Argentine en 2014... Ouais. Bah, on était contents de sortir. Et je me souviens, je revois les highlights de ce match. Moi, j'ai envie d'aller pleurer dans ma caisse. Mais oui, parce que t'as Lichtsteiner, la seule erreur du match, et puis Zemaili, poteau, et tout. Et on était contents à ce moment-là, à cette époque-là. Et aujourd'hui, effectivement, les attentes ont le droit, doivent être plus élevées, parce que ça s'appelle pour moi l'ambition. Mais par contre, les critiques, là, je te rejoins, Carlos, des fois, trop souvent...
On est beaucoup mieux que cette époque-là d'Argentine. C'est-à-dire que là, on disait toujours, la Suisse, on est difficile à manipuler.
Ouais.
Ça s'arrêtait là. Enfin, on savait que la Suisse n'allait...
Sérieux.
On savait qu'on n'allait pas se faire dominer. Contre n'importe qui, même le Brésil. Maintenant, on est au niveau où... Non, c'est nous qui allons vous faire souffrir. Je trouve que ça, il faut pas...
J'ai de la famille en Amérique du Sud qui pensait que l'Argentine allait exploser la Suisse 5-0 et qui ont vraiment eu peur tout le long de ce fameux match en 2014.
Ah, ça fait déjà 10 ans.
Ouais, ça nous rajeunit pas. On parle un petit peu de Bâle-IB parce que c'était un match important aujourd'hui. Ça reste quand même les têtes d'affiche de notre championnat historiquement, même si aujourd'hui Servette est devant. Servette a conservé son statut de leader malgré sa défaite contre Yverdon samedi soir. IB qui a battu Bâle de manière méritée, je trouve, mais IB qui a quand même joué à se faire peur parce que IB a pas su mettre le 2-0 et ça a failli lui coûter très cher.
Pour moi, c'est le IB de 2025. Le IB qui est meilleur mais qui est pas rassurant. C'est-à-dire que ce match, ils peuvent pour moi même le gagner 3-0. S'ils arrivent à mettre le deuxième dans leur moment fort, après ça peut très bien se finir. Puis on dit oh, IB très très fort. Puis là on dit IB c'est bien, mais ouais, effectivement comme tu l'as dit, ils sont pas passés loin de la correctionnelle parce qu'il y a un partout. Bah, finalement ça peut aller dans les deux sens. Mais voilà, c'est un IB meilleur, mais un IB qui est pas encore ultra rassurant. Maintenant c'est un IB qui est quand même à 5 points de la tête.
Mais un IB qui gagne normalement à domicile, qui est pas forcément bon à l'extérieur, qui gagne aujourd'hui à Bâle, Carlos, et surtout, j'ai envie de dire, un IB qui a enfin les leaders. On a souvent parlé pendant l'automne, les leaders, il manque des leaders. Fasnacht, Keller, ces joueurs-là, Ravelosson, Benito, voilà. Ces gars-là, aujourd'hui, font que IB repart de Bâle avec 3 points.
Et de Bâle, pour moi, c'est le match où on peut accueillir IB officiellement à la course au titre. C'est le classement déjà, les points, mais c'est où ils vont chercher ces 3 points. Parce qu'on parle d'une équipe qui est, entre guillemets, retrouve son statut comme Bâle, etc., contre une équipe qui est une saison catastrophique. Aujourd'hui, il y a 5 points, ils sont dans le top 6. Si IB, dans quelques semaines, ils prennent le leadership, qui a eu Lugano, qui a eu Servette, qui a eu Bâle, on ne les voit plus. On ne les voit plus parce que l'adversaire va entamer les matchs différemment. Et ce match-là, tout le monde, mais je suis sûr, tout le monde se dit, ils sont là. Il y a le matelas, il n'y a plus de matelas. C'est 5 points, ils sont rien. Tu gagnes à Bâle dans l'équipe qui est soi-disant numéro 1 en ce moment pour aller au titre. Pour moi, il ne faut pas qu'ils se rapprochent plus parce que moi, j'ai adoré ce match. Je ne suis pas du tout d'accord avec les interviews d'après-match de Bâle. J'ai encore entendu Shaqiri maintenant. Pour moi, il faut qu'ils s'asseyent et puis qu'ils étudient un peu. Bâle peut mener 2-0. Ils sont arrivés mais une quinzaine de fois dans les 30 derniers mètres de Bâle. Une facilité. Dans une facilité incroyable. La défense de Bâle, jamais de la vie tu tiens jusqu'au bout avec ça. Et même les gens qui manquaient ne sont pas meilleurs. Et j'ai vu IB les bouffer. Shaqiri l'ont fait disparaître, comme il l'avait déjà fait au premier tour. Shaqiri, pour moi, vous ne m'en voudrez pas, ça ne concerne que moi, même si Célestine dit le contraire. Moi, je sais que si on enlève Shaqiri à Bâle, malgré les stats, je suis sûr que Célestine, il ne dit pas non. Célestine, il veut des gars qui se battent en haut, en bas. Il a assez de maturité. C'est un bon entraîneur. Je suis sûr que ce pion... Et je m'en fous qu'il fasse 4 assists et un but contre Winterthur. Et puis que les stats, ils sont incroyables. Je sais, dans le contenu, dans ce match-là, il n'est pas là.
Mais parce qu'il devrait être là. Il est sorti blessé la semaine dernière. Et puis là, il passe à côté de son match aujourd'hui.
Il est là. Ouais, il est quand même sur le terrain. Il s'est fait bouger.
Ouais.
Et
puis ouais.
C'est tout.
Bon, on l'a pas vu. On l'a pas vu.
Ouais. Ouais.
Mais moi, j'aime bien le côté déclic. Ouais. Si je peux revenir là-dessus, c'était le début de ce que disait Carlos. Alors, je ne vais pas m'en vanter, mais depuis le mois de novembre environ, je dis qu'IB sera champion. J'ai eu quelques doutes quand même. Mais, mais là, en voyant ça, je me dis qu'IB sera champion. Donc, parce qu'il fallait peut-être effectivement un match déclic. Mais là, on est à maintenant 5 plus 2, je ne sais plus.
Plus 2.
5 plus 2, journée de la fin. Et surtout, les 5 dernières, si IB est dans ce top 6, et je pense que ce sera le cas, les 5 dernières, ils vont jouer tous les adversaires directs. Et là,
ils peuvent prendre 3 points à chaque fois.
Les autres auront les pétoches. Ouais. C'est IB. Ouais. Ils vont pas jouer le coup à fond. Il y aura des matchs, peut-être des matchs pas très beaux d'ailleurs, malheureusement, mais où je pense que certaines équipes vont se dire, oulala, c'est IB, on va jouer peut-être plus défensif que d'habitude, on a peur d'eux. Si IB est là, IB fera très mal.
Très vite, Michael, oui ou non, il y a Jules qui demande, est-ce que Marvin Keller aurait mérité une place dans l'équipe de Suisse ? Sélection.
Oui, mais je pense qu'en Suisse, il y a 5 ou 6 gardiens qui méritent.
Bien. Je crois qu'on est arrivé au terme de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. On est venu évidemment avec le maillot de Dan Endoy que vous pouvez gagner sur nos réseaux. Moi, j'ai ramené une écharpe de l'Atlético à Carlos Varela. Je vais aller lui la donner, lui la mettre autour du coup, parce que Carlos adore l'Atlético, ce grand fan du Real Madrid.
Bien, voilà.
Merci beaucoup, Carlos. C'était un plaisir.
Merci pour le cadeau.
On se voit la semaine prochaine. Non, on se voit pas la semaine prochaine. Pause des équipes nationales. On revient avec Mati Vidkaviès pour parler du Servette FC. Ciao.